Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de la réconciliation.
La réconciliation est un thème biblique qui apparaît surtout dans les écrits de l'apôtre Paul. En compagnie de notre invité Claude, nous chercherons à mieux comprendre l'enseignement de l'apôtre à ce sujet. Claude, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris que la réconciliation avec Dieu est possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus y a porté nos péchés et y a subi le châtiment de Dieu. Ceci étant accompli, nos fautes et notre condition de pécheur ne représentent plus un obstacle qui nous sépare de Dieu. La route qui conduit vers notre Père céleste est à nouveau ouverte.
Et aujourd'hui, nous allons nous demander comment saisir cette réconciliation que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Toutefois, avant de nous pencher sur le sujet, écoutons notre texte de référence, qui est un extrait de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 17 à 21.
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici. Ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.
Merci. À travers ce texte biblique, nous constatons que l'apôtre Paul se sentait chargé d'une mission primordiale, celle d'apporter un message de paix et de réconciliation à tout peuple.
Toutefois, comme pour toute démarche de réconciliation, il est essentiel que les deux parties en question veuillent cette réconciliation et qu'ils coopèrent pour qu'elle ait des chances d'aboutir.
C'est exact, Yann. Il est évident que Dieu désire que les femmes et les hommes se réconcilient avec lui. C'est une preuve de plus de son amour. Dieu a initié cette démarche de réconciliation. De plus, Jésus a tout fait pour rendre cette réconciliation possible, au point de se laisser crucifier et de donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Maintenant, c'est à chacune et à chacun de profiter de cette occasion, d'accepter l'offre de réconciliation et de coopérer avec Dieu pour que leur nouvelle relation avec lui soit construite sur de bonnes bases. Et voici une illustration. Imaginez que vous vivez loin du village où habite votre père. C'est la saison des pluies et cette saison a été plus longue et plus dure que d'habitude. Depuis des mois, les routes pour aller à son village sont devenues impraticables. Des ponts ont été emportés et tout véhicule qui tente de prendre les chemins inondés s'embourbe rapidement. Il est donc impossible d'aller voir votre père. Puis, la saison change, les pluies s'arrêtent. Alors, quelques semaines plus tard, vous recevez un appel de votre père. Il vous annonce que les routes sont de nouveau vertes. Il a lui-même participé aux travaux de réparation sur les ponts et a aidé à remettre en état les chemins abîmés. C'est pourquoi il vous invite à venir lui rendre visite. Imaginez sa déception, sa blessure et l'offense subie. Si son fils raccroche le téléphone à son nez et refuse d'aller le voir.
Ce serait un comportement indigne et méchant.
Et pourtant, toute personne qui refuse de se réconcilier avec Dieu se conduit de façon similaire. Ces personnes préfèrent les ténèbres à la lumière. Elles préfèrent le mal au bien et elle s'obstine dans la pratique du péché. Elle se prive ainsi d'une très grande bénédiction. Elles ne jouiront ni d'une relation privilégiée avec Dieu, ni de l'espérance de la vie éternelle.
Merci pour cet avertissement. Mais revenons à la question que j'ai annoncée au début de l'émission. Comment donc saisir la réconciliation que Dieu nous offre en Jésus-Christ?
Il faut avouer que le texte que nous avons lu en début d'émission ne nous le dit pas. Toutefois, en tenant compte de l'enseignement de la Bible du début à la fin, j'affirme que la démarche à adopter se résume à deux attitudes, liées l'une à l'autre.
De quoi s'agit-il?
Il s'agit de la foi et de la repentance.
Commençons par la foi. Comment la définir dans ce contexte?
D'abord, la foi, c'est croire que cette offre de réconciliation de la part de Dieu est vraie. C'est croire que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a enlevé l'obstacle qui nous séparait de Dieu. Il a subi le juste châtiment de nos péchés. Et ainsi, il a obtenu notre pardon. Cependant, la foi est plus qu'une simple connaissance intellectuelle. La foi, c'est aussi mettre sa confiance en une vérité ou une personne et agir en conséquence. Laissez-moi vous donner quelques exemples. On vous propose un billet d'avion pour vous rendre en France. Vous pouvez très bien croire que l'avion peut voler en toute sécurité pour vous y emmener. Vous pouvez très bien croire aussi que le pilote est compétent. Cependant, la preuve de cette foi serait que vous preniez le billet, montiez dans l'avion et preniez place pour le vol. Dès cet instant, par vos actions, vous montreriez que vous avez confiance dans les capacités du pilote et de l'avion. Et voici une deuxième illustration. Vous vous promenez en ville. Sur la porte d'une vieille case, vous apercevez une petite affiche sur laquelle il est écrit « Derrière cette porte se trouvent des lingots d'or. Entrez et prenez-en un. Si vous croyez que ce message est vrai, la preuve en sera que vous ouvriez la porte pour vous servir. » Voilà ce qu'est la foi. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, en l'occurrence, est qu'il est possible de se réconcilier avec Dieu. La foi consiste à mettre notre confiance en Jésus pour recevoir de lui tous les fruits qui découlent de sa mort sur la croix, qui sont le pardon, notre réconciliation et tant d'autres bénédictions encore. Dieu nous tend un cadeau. C'est à nous de le saisir.
Merci Claude. Parlez-nous maintenant de la repentance qui accompagne cette foi.
Oui, la repentance, c'est simplement faire demi-tour. C'est changer de direction. Imaginez que vous prenez votre moto pour aller rendre visite à un oncle. Sur le chemin, vous interpellez un passant pour lui demander la route à suivre. En discutant avec vous, il s'aperçoit que vous avez pris la mauvaise direction et qu'il vous faut rebrousser chemin. Si vous avez confiance en lui, vous l'écouterez et vous ferez demi-tour pour retrouver le bon chemin. La repentance implique un grand changement de direction dans la vie, celui de se détourner de nos anciennes mauvaises attitudes envers Jésus pour nous attacher à lui et lui faire confiance. La repentance, c'est se mettre à écouter Jésus, c'est recevoir son enseignement tel que nous le trouvons dans la Bible. La repentance, c'est, à la lumière de la parole de Jésus, se détourner du péché pour vivre une vie pure, droite et intègre. Dans toute démarche de réconciliation, les deux parties doivent se faire mutuellement confiance. Et les relations nouvellement renouées doivent être construites sur de bonnes bases. La foi et la repentance sont des attitudes essentielles à la réconciliation. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus-Christ, car il en est digne. Mais il est également nécessaire de construire notre relation avec Dieu sur de bonnes bases bibliques.
Merci Claude. Maintenant, le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Nous revenons sur la première lettre de l'apôtre Jean. Pour commencer, Sandra va nous lire les versets 12 et 13 du chapitre 5. Et ensuite, Didier nous fera part de ses réflexions.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu.
Merci et bonjour à tous. Cela peut paraître étrange que Jean écrive « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie ». Car si vous m'écoutez en cet instant, vous pouvez confirmer que vous êtes bel et bien vivant, tout comme les gens autour de vous. Et pourtant tous ne croient pas forcément en Jésus. Alors de quelle vie Jean parle-t-il donc? La Bible nous enseigne que tous, sans exception, nous sommes spirituellement morts, même si nous sommes bien vivants en chair et en os. La Bible nous enseigne également que Jésus est venu pour remédier à cette situation. Être mort spirituellement signifie, selon la Bible, que l'on est privé d'une relation avec Dieu et que l'on se trouve dans l'impossibilité d'avoir une connaissance personnelle de Dieu. La cause de cette mort spirituelle est notre état de pécheur, et si nous ne trouvons aucun remède, nous aurons comme destin ultime la mort éternelle. Ce thème de la vie revient souvent dans les écrits de l'apôtre Jean, et notamment dans son évangile. En Jean, chapitre 10, au verset 10, Jésus annonce « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie abondante. » Qu'est-ce qu'une vie abondante? Il ne faut pas penser à une abondance de richesses et de biens. Non, Jésus lui-même définit ce qu'est la vie abondante. Au chapitre 17, au verset 3, il précise « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable. » Ainsi, nous comprenons que la vie abondante consiste essentiellement à connaître Dieu, et ceci pour l'éternité. Avez-vous mis toute votre confiance en Jésus? Si vous l'avez fait, Jean vous rassure, car Jésus vous offre une vie merveilleuse. Et cette vie vous permet de vivre en communion avec Dieu. Elle vous permet de connaître la vie éternelle. Oui, la vie abondante, la meilleure des vies, la vie incomparable consiste à connaître Dieu éternellement. Nous recevons cette vie par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte d'accès. Et toute autre promesse d'une prétendue vie abondante finira par nous décevoir et nous plonger dans le malheur.
Merci Didier. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos deux séries. En attendant de vous retrouver tous, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.